Vous écoutez
RMC.
RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
Et on démarre avec un extrait d'Apolline Matin, ce matin sur RMC. Les industriels ont-ils gagné la guerre de l'alimentation? Suite aux pressions des restaurateurs, la proposition de loi imposant le fait maison sur les cartes des restaurants a été retirée à l'Assemblée nationale. Une victoire pour tous les industriels qui fournissent la quasi-totalité des restaurants. Et ça scandalise le restaurateur parisien Stéphane Manigold.
Eh bien, le consommateur, Apolline, il ne peut pas savoir si celui qui se lève tôt a cuisiné ou si c'est le micro-ondes qui a tourné 30 secondes avant. Je suis ulcéré parce que c'est une victoire des industriels et qu'en aucun cas, c'est la position de l'artisanat français. C'est un coup de poignard dans le dos, dans le cœur de l'artisanat, des Français et des Françaises que vous recevez régulièrement et qui régulièrement sont frappés par la crise énergétique, par l'impact du PGE, par l'impact des charges sociales, par l'impact des charges patronales. Ça suffit, il y en a ras-le-bol.
Alors en fait, ce que dénonce Stéphane Manigold, il devait y avoir normalement une pancarte non fait maison sur les restaurateurs qui ne font pas du fait maison, justement qui détournaient leur micro-ondes et cette proposition de loi a été avortée. Ça vous scandalise, Fred Hermel?
Ah oui, bien sûr, parce que je trouvais fantastique de pouvoir aller au resto et que le plat... Quand tu vas en Italie par exemple, quand c'est du surgelé, c'est marqué... Pour chaque plat, c'est marqué quand c'est du surgelé.
Il y a très peu de surgelé en Italie.
Oui, non, mais pourquoi? Parce que comme
il fait trop chaud.
Eh ben voilà. Mais pourquoi on mange très bien? Parce que comme les gens qui faisaient du surgelé, étaient marqués au fer rouge parce qu'ils étaient obligés de le faire, et ça améliore la qualité. Et donc là, d'ailleurs, Stéphane a dénoncé, c'est le député des Français d'étrangers Amérique du Nord, proche de Macron, qui a tout fait pour que ça n'entre pas dans la loi. Donc c'est une honte absolue. On est en train de tuer notre restauration parce que la qualité a baissé.
Il aurait fallu 92% oui. Grosso modo des restaurants français auraient mis non fait maison.
Et ben voilà, mais moi
mais c'est
parce
pas
qu'aujourd'hui
c'est pas grave.
Excuse-moi, c'est le seul domaine dans lequel on te dit pas ce que tu vas acheter.
Je suis d'accord. Alors qu'au supermarché maintenant t'as 18 000 trucs sur tes emballages pour savoir ce que tu manges. Ouais. Emmanuel Dancourt, est-ce que ça vous aurait poussé à peut-être mieux choisir vos restaurants, cette pancarte non fait maison?
Alors honnêtement, oui, sachant que moi j'essaye de faire super gaffe, mais finalement tu sais pas en réalité. Mais pourquoi ne pas prendre les choses à l'inverse et inviter tous les restaurants qui font vraiment sa maison, qui font de la cuisine familiale à mettre fait maison, même si
ça veut rien
pas
dire.
Légal,
en fait, fait maison, c'est-à-dire que si tu coupes dans ton restaurant un sachet et que tu le mets dans le micro-ondes, c'est fait maison. Voilà. T'as coupé le sachet dans ton restaurant. Donc en fait, le fait maison ne veut rien dire, le non fait maison veut dire quelque chose. Et c'est bien pour, c'est pour ça, c'est vrai que t'aurais vu marquer non fait maison en gros sur un resto, t'as pas envie d'y aller.
Ouais. Non, mais bien sûr que t'aurais pas envie d'y aller. Enfin, moi, je sais que j'y serais pas allé et tant pis pour eux. Donc oui, c'est une victoire des industriels. Je crois que la réponse, elle est claire et que Stéphane Manigold a raison. Cela dit, malgré tout, moi, quand je vois, j'habite dans une ville très gastronomique. À Dijon, on a des merveilleux restaurants et j'essaye de voir à chaque fois si la cuisine a été faite maison. Et il y en a qui le marquent, mitonné avec amour à la maison, etc. Tu y vas une fois,
alors,
façon,
y
tu sais.
Il y a ça sur un nombre de. Sur des purées industrielles, tu sais, mijoter avec amour, tu prends les
tu vas
même dans des sacs plastiques.
Tu vas avec la cuillère en bois, c'est quelque chose.
Ou la laitière de Vermeer, tu sais, sur les yaourts,
c'est exactement ça.
Je crois que ça ne se fait pas comme ça.
C'est du fait maison washing. Mais pourquoi ne pas faire un guide de tous les bons petits restaurants accessibles où c'est fait maison? Accessible, moins accessible, fait maison, voilà.
Mais encore une fois, il faut préciser ce que dit Estelle. Alors, ça permettait vraiment d'écarter, parce qu'encore une fois, tu l'as très bien dit. Fait maison aujourd'hui. Je reçois des légumes en sachet. Des carottes, par exemple. Ouais. Moi, je vais les découper. Et je les cuisine. C'est fait maison.
Exactement.
Donc, non fait maison, ça veut vraiment dire que c'est du plat tout prêt qui arrive.
C'est surgelé.
C'est pas l'honneur de la France.
Mais il faut quand même être clair. En France, j'ai retrouvé le chiffre. Sur 175 000 restaurants en France, 7 à 8 000 font vraiment du tout fait maison.
Wow.
Quand on dit fait maison,
faut les valoriser.
Faut pas se leurrer. Hein. On imagine, il va le matin sur le marché choisir ses légumes, choisir son poisson et il nous propose un bon plat de poisson. Ça, ces restaurants-là, ils existent. Il y en a au maximum 8000 en France sur les 175 000 qui existent.
Et à mon avis, ils sont évidemment plus chers parce que ta main d'œuvre est obligée de rester beaucoup plus longtemps, etc. Tes produits frais coûtent plus cher que les produits industriels. Donc en fait, ce sont des restaurants qui sont aussi réservés souvent à des personnes qui ont un peu d'argent. Alors Emma, pour savoir si c'est du fait maison ou pas, il y a un truc qui est infaillible. Quand le serveur prend ta commande et que
5 minutes après,
c'est sûr.
Il est drôle. T'as même pas dit ce que tu voulais, que t'avais ton plat a priori.
Puis un autre.
Pas pas bon
un
signe.
Un autre indice, lorsque vous avez un petit restaurant, voilà, je parle pas d'un très, très, très grand restaurant.
Qui a une grande carte.
Mais voilà, et qui a 12 plats proposés.
C'est pas possible. Moi, à Dijon, on a un restaurant, ils font que deux entrées, deux plats et deux desserts. Ils changent tous les jours, et ça, c'est génial. Parce que tu sais, le marché est juste à côté.
Si ta pizza cassoulet ou brandade, c'est pas bon signe.
Voilà, non. Et ceviche de dorade, parce que c'est important.
Et le hamburger maison.
Évidemment. Voilà, donc ça, c'est des petits indices qui nous permettent de savoir si c'est du fait maison ou pas. Charles Matin, ce matin sur RMC, utilisez-vous encore de l'argent liquide? Un sondage commandé par la Monnaie de Paris révèle que 83% des Français restent attachés au cash. Un chiffre qui est en contradiction avec la réalité, puisqu'aujourd'hui, seuls 50% des achats sont encore effectués avec des espèces. Ça me paraît déjà énorme.
Ça me paraît beaucoup.
Mais l'argent liquide ne disparaîtra jamais, selon Marc Schwartz, il est directeur général de la Monnaie de Paris, justement.
La société sans cash, elle est massivement rejetée par les Français, comme elle est massivement rejetée par les citoyens dans le monde entier. Quand on regarde toujours ces sondages, ben, par exemple, les Français disent qu'à près de 85%, ils seraient inquiets de voir disparaître les espèces. Parce qu'ils sentent bien que, malgré tout, les espèces, c'est une forme de liberté. Le droit de choisir le moyen de paiement qu'on veut utiliser est une liberté. Et les gens ont confiance dans la monnaie, précisément parce qu'ils savent que c'est quelque chose qui est émis par l'État ou par la Banque centrale et donc qui a une valeur qui est une valeur qui est très sûre.
Est-ce que vous êtes attaché à l'argent liquide, Pierre-Edouard Magnan ?
Pas du tout, oui. J'en ai jamais.
Vous n'êtes pas attaché
jamais.
À l'argent, de toute façon.
Les rares fois où j'ai besoin d'argent liquide, il faut vraiment que j'y pense et que je fasse exprès d'aller chercher 10, 20 ou 30 euros parce que voilà. Donc moi, absolument pas. Après, je continue un peu dans parce que par contre, j'ai une femme qui a été 20 ans dans le commerce.
Ouais.
Et c'est là où on voit l'éducation, où on voit la culture acquise. Elle, par contre, a stress d'argent liquide parce qu'elle était dans un, elle était coiffeuse.
Bah, oui,
elle
tu m'étonnes.
Elle est payée pour partir en liquide. Oui. Et du coup, elle continue.
Elle aura une toute petite
elle est capable d'aller chercher de l'argent pour aller faire ses courses avec de l'argent liquide au lieu de payer avec sa carte.
Ah, ouais.
Mais c'est 20 ans dans le commerce. Mais moi, je vois, enfin, je, non, effectivement, non, je suis absolument pas. Et en plus, maintenant, depuis que le sans contact, nous avons plus, alors avec l'effet Covid, c'est démocratisé à mort, on peut même payer sa baguette en sans contact.
C'est
la première fois, c'est le boulanger qui m'a dit, mais si, vous pouvez, parce que souvent, j'ai dit, attendez, la baguette, vous allez payer plus de frais que de machin. Non. Je reconnais qu'effectivement, et d'ailleurs j'ai tort, mais je suis le premier des fois à râler parce que toutes les cinq fois ça marche pas, donc vous avez jamais au moment où ça fait cinq fois que ça marche pas, faut refaire le code et donc vous cassez les pieds à tout le monde derrière vous. Mais sinon non, mais je pense qu'en plus c'est vrai qu'en termes de sécurité c'est quand même on n'a plus d'argent liquide.
Tu sais que les seules fois où moi je retire de l'argent liquide, je n'ai que deux raisons de retirer de l'argent liquide. Et à chaque fois faut que je m'organise.
C'est pour payer tes travaux. C'est pour payer tes travaux.
Non pas du tout. C'est en début de mois. Quand le grand retour d'Arthur, quand Arthur me dit « Maman, mon argent de poche... »
Fais-lui un Lydia.
Ça.
Tu lui fais un petit virement.
Non, ouais. À 10 ans, enfin 11 ans maintenant, t'as besoin de voir le petit, la petite pièce, le petit billet. C'est pour ça. Et quand je suis démunie dans le métro ou ailleurs pour donner la pièce à quelqu'un dans la rue qui a besoin.
Ça, c'est un problème.
Deux seuls moments. Oui, parce qu'ils prennent pas la carte bancaire. Alors moi, je trouve ça complètement
dingue. Ils ont pas de sum-up.
Tu sais que même à l'église, pas dans les campagnes évidemment, mais dans les grandes paroisses parisiennes et lyonnaises, maintenant tu payes en carte bancaire.
Paroissien,
voilà.
Le caramel pour aller chercher les pièces dans le tronc.
Voilà. Un film
mais c'est les deux seules fois.
De
quoi.
Jean-Pierre Mocky avec Bourville.
Ville, exactement.
Merveilleux.
Fred, vous, je suis sûr que vous êtes très attaché aux espèces.
Bah non, en fait, pour une raison très simple, c'est que j'aime pas la monnaie, ça troue les poches de pantalon et je sais jamais.
Ah oui, on est sur du.
Non, ça déforme les poches.
J'avais pas pensé à
la monnaie.
Mais alors, excusez-moi, d'être sincère.
Et les billets ne trouent pas les poches.
Non, bon, j'ai pas beaucoup de billets, tu sais.
Non,
c'est plus que ça me permet. Et franchement, c'est vrai que nos tickets restaurant maintenant, chez nous à RMC, c'est une carte maintenant.
Oui, tout à fait.
C'est bien pratique. Ça, je l'utilise surtout pour les petits achats, pour la baguette, etc.
Non, moi. Baguette en ticket restaurant, vous?
Bah oui.
Ah bon,
ouais, mais c'est la carte, ça va super vite. Bah tu l'as aussi, tu l'as.
Oui, mais je ne vais pas je ne paye pas ma baguette avec ma carte ticket restaurant.
Puis, alors des pièces après, tu sais, après il reste toujours les pièces de 10, de 5, de 10, de 20, tu sais pas quoi en faire.
Les pièces de 10 centimes,
vous voulez
dire. Ah oui.
Moi je pense que
ça va
disparaître. Et ça salit les mains, après tu touches tes mains, ça salit les mains.
Ah mais moi je ne rends jamais les pièces
orange. L'argent n'a pas d'odeur, Fred, de quoi parles-tu?
Au marché quand on me refile des pièces orange, donc 1, 2 ou 5, je dis mais gardez-les. Je ne veux même plus. Je ne veux même plus.
Je suis d'accord avec moi.
Je suis désolé.
Il y a un petit détail. Ben tout le monde doit. Moi mon salaire, il y a toutes les cotisations dessus. Ben le commerçant, il doit payer toutes les cotisations dessus aussi. Il a voilà. Oui, ta femme, je suis désolé.
Non, mais c'est moi qui faisais.
Oui, mais elle aura une plus petite retraite.
Ça, là-dessus, ça va pas être terrible.
Non, mais l'opération pièce jaune va pas durer longtemps parce que moi, je suis persuadée que ça va disparaître au fur et à mesure.
Personne ne veut de pièce jaune. Les GG, ce matin sur RMC, avez-vous peur pour la sécurité de vos données? Les attaques informatiques contre les sites sensibles ne cessent de s'intensifier. Le dernier en date étant celui de France Travail, c'est-à-dire c'est l'ex-Pôle emploi. Ce dernier a été ciblé pendant un mois et les données personnelles de 43 millions de personnes sont potentiellement compromises. Une vraie inquiétude pour le chef d'entreprise Mehdi Ghezard.
Avec France Connect, avec ton numéro de sécu, tu peux sortir ton avis d'imposition. Avec ton numéro de sécu, tu peux sortir ta pièce d'identité, tu peux faire un duplicata de ton permis de conduire. Donc, d'un côté, on nous dit numérisation à outrance, et de l'autre côté, on nous dit on est vraiment désolé, mais on s'est fait taper 43 millions de données pour les habitants en France. Et n'oubliez pas une chose, c'est que quand il y a les impôts, c'est-à-dire qu'il y a le RIB.
Aucune donnée bancaire n'a fuité, manifestement.
Regarde le mensonge, comment il est énorme. Aucune donnée bancaire n'a fuité, d'accord. Quand tu es chez France Travail, tu donnes ton RIB pour avoir des allocations. Donc arrêtez de raconter des conneries. Ils se sont fait voler complètement.
Avez-vous peur pour la sécurité de vos données, Pierre-Edouard Magnan?
Peur, je dirais que c'est pas une angoisse qui m'étreint tous les matins quand je me lève.
Non, mais tu fais gaffe à tout, des types sur Internet, etc.
Par contre, c'est effectivement une réalité. On a la numérisation du monde à créer des quantités de données et les a solvabilisées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elles se vendent, elles valent quelque chose. Il y a toujours eu des données, on a toujours eu des feuilles d'impôt chez soi, mais personne venait de piquer ta feuille d'impôt puisque une seule, ça servait à rien, c'est le flux. Et l'autre problème, c'est que tous les systèmes de sécurité ont fait la fortune des boîtes de sécurité informatique, mais par définition, elles ont toujours un cran de retard sur les pirates et les voleurs de données. Après, là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est que oui, on peut voler 43 millions de contacts à France Travail en ne volant par exemple que des adresses postales et pas des RIB, parce que tout n'est pas mélangé dans une énorme boîte, si je peux prendre cette image. Donc oui, on peut. Il y a eu aussi un grand vol dans le secteur de la santé chez deux grandes entreprises qui sont des concentrateurs de données, notamment pour le secteur de l'assurance maladie. Pareil, on a volé que certaines données et pas tout le reste. Après, j'ai envie de dire aussi, nos propres données, on les met nous-mêmes partout. Après, le sujet, c'est comment on devient, nous, responsables numériquement. Comment on change nos mots de passe régulièrement? Comment on met pas le même mot de passe partout pour être sûr de pas l'oublier? Comment on ne laisse pas traîner de données tout le temps? Comment on apprend aux enfants? Je pense qu'à l'école, il faudra apprendre aux enfants ce que c'est qu'un cookie et comment on le gère et pourquoi on dit non et pourquoi on dit oui. Parce que quasiment tous, quand on reçoit, on ouvre un site, ils nous emmerdent avec le truc cookie. Ah oui, bon, ok, fous-moi la paix, je vais aller sur le site. Ce qui est un non-sens en termes de sécurité informatique, mais il n'y a aucune éducation. Là encore, on revient à la base. L'éducation à la protection numérique, l'éducation au fait que nos données valent de l'argent, qu'il faut donc les protéger, selon l'axiome que quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Et il y a un vrai travail là-dessus, sur des gamins qui sont par ailleurs ultra digitalisés. Il n'y a pas de sujet là-dessus, mais leur connaissance, la maîtrise du risque de la donnée, y compris à titre individuel. Après, sur le plan de l'État, etc., imaginez qu'un jour le fisc se fasse pirater, mais en termes de loi des probabilités, pour rester dans les chiffres, forcément, ça arrivera.
Tout ce que tu dis est vrai, sauf dans le cas où il y a des hôpitaux qui se font hacker, beaucoup.
Qui a été le cas,
moi, j'essaie d'être hyper prudente, de faire tout ce que tu dis, mais quand c'est l'hôpital qui se fait hacker et que c'était ton hôpital, tu peux pas faire grand-chose, Quand c'est ta banque qui se fait hacker, moi, je suis dans une banque ultra sécurisée, malgré tout, tu peux pas faire grand-chose. Enfin, notre pouvoir à nous, il est limité. On doit faire ce qu'on peut faire. Mais honnêtement, ça nous échappe. Et tu le disais, les hackers, ils ont toujours un train d'avance, quoi. Ils sont super forts.
On va terminer avec les GG ce matin sur RMC. Karim Benzema dans l'équipe de France des Jeux Olympiques. Est-ce une bonne ou une mauvaise idée, selon le journal de l'équipe? L'ancien international français serait intéressé pour participer aux Jeux Olympiques de Paris avec l'équipe de France Espoir, emmenée par Thierry Henry. Une nouvelle qui réjouit la coach de vie, Joël Dagosséry.
Benzema, il n'est pas rancunier, franchement. Là vient de la chance, parce que je peux te dire qu'il y en a d'autres à sa place, ils auraient craché sur le maillot depuis longtemps. Il est vraiment pas rancunier pour, à 36 ans, dire qu'il reviendrait bien en équipe de France. Moi, je trouve que c'est une bonne idée, s'il peut apporter quelque chose à des jeunes de moins de 23 ans, quelqu'un qui a une telle expérience, d'accord, peut-être qu'il sera pas hyper efficace à 36 ans, mais ce qu'il peut apporter, c'est peut-être autre chose. Donc, faut pas regarder que... parce que pour courir derrière le ballon, je pense qu'il y a les effectifs. Si c'est pour courir derrière le ballon, il y a ce qu'il faut, j'imagine.
Bon, alors on va quand même lui rappeler que Benzema, il a plus le niveau d'avant et que il ne joue pas depuis quelques mois, il est en bisbille avec son club et que ce n'est plus que l'ombre de lui-même, on va dire, Fred Hermann.
Benzema, et j'ai suivi toute sa carrière à Madrid, à 10 cm de lui, donc je le connais très bien, je l'aime beaucoup, mais Karim Benzema joue dans un championnat ultra mineur qui s'appelle le championnat d'Arabie Saoudite.
À l'Ittihad.
Voilà, il joue quasiment plus parce qu'il a problème avec l'entraîneur et des problèmes physiques aussi. Donc non, bah, je suis désolé Joël, on fait une équipe pour gagner la médaille d'or aux Jeux Olympiques, pas pour faire plaisir à des gens. Et alors en fait, il y a un nombre limité de joueurs au-delà de 23 ans, je crois que c'est 3 qui peuvent entrer dans cette équipe. Et vous avez des joueurs comme Griezmann, comme Mbappé qui ont joué. Il y a des joueurs tellement Olivier Giroud, tellement plus forts et qui jouent dans des championnats compétitifs qui sont candidats à cette place. Donc non, l'époque de Karim Benzema est passée. Parce que d'un point de vue purement sportif, Benzema aujourd'hui n'a malheureusement plus le niveau pour nous emmener vers la médaille d'or. Voilà.
Je pense que Michel Platini aussi, ce serait bien, mais enfin.
Et Raymond Coppa, je te dis pas.
Il fait quoi l'ingiresse en ce moment
Benzema, voilà, formidable joueur, exceptionnel, etc. Je sais.
Donc on va pas m'accuser de retour. Moi, je me faisais insulter parce que je défendais Benzema en disant que c'est un immense joueur.
Mais là, malheureusement,
aujourd'hui, il n'est plus, c'est tout.
Ça paraît malheureusement compliqué.